les centres d'information Europa Direct s'adressent à tous les citoyens et font office d'intermédiaires entre eux et l'Union européenne au niveau local. Reconnue comme centre d'information depuis 2007, la Maison de l'Europe en Mayenne vous propose cette émission sur l'autre radio, Instant Europe.
Bonjour à toutes et tous, Instant Europe est de retour. On se retrouve pour ce rendez-vous tous les 2 mois, évidemment et exceptionnellement, nous reviendrons le mois prochain. Aujourd'hui, nous allons parler du programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs, un programme porté par la Commission européenne. Et je ne suis évidemment pas seule pour parler de ce sujet aujourd'hui, puisque j'ai avec moi Nicolas Chaumel, chef de projet Erasmus pour jeunes entrepreneurs à Laval Mayenne Technopole. Bonjour.
Bonjour.
Avec vous, Romain Giannini, chargé de projet européen à Laval Mayenne Technopole. Bonjour également.
Bonjour.
Et pour finir, Kevin Lognonnet qui est avec nous au téléphone. Kevin a pu bénéficier du programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs et pourra nous faire part de son expérience. Bonjour Kevin.
Bonjour à tous.
Sophie également de la Maison de l'Europe, pardon, est avec nous. Bonjour. J'aimerais commencer donc cette émission donc, où nous allons parler du programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs, mais par expliquer un peu qu'est-ce qu'est ce programme.
Eh bien, ce programme est un programme Erasmus d'abord, il faut le rappeler, c'est-à-dire qu'il vise à favoriser la mobilité intra-européenne des citoyens. Mais là, la particularité, c'est qu'il ne s'adresse pas à des étudiants, comme le programme Erasmus que beaucoup de gens connaissent, qui consiste à favoriser le transfert des séjours d'étudiants dans des universités étrangères. Là, il s'agit de favoriser le séjour de créateurs d'entreprises dans des entreprises d'accueil à l'étranger en Europe. À l'étranger en Europe, mais aussi au-delà, dans le cadre d'un avenant sur lequel nous reviendrons tout à l'heure.
Ce programme existe depuis 2007, si je ne me trompe pas. En tout cas, il a été testé en 2007. Quelle est l'origine de ce projet? Quel était le besoin, peut-être?
Eh bien, à l'origine, c'est effectivement 2007, non pas la création du programme Erasmus Jeunes Entrepreneurs, mais c'est en 2007 que le Parlement européen a ouvert une ligne budgétaire pour élargir le programme Erasmus aux créateurs d'entreprises. Et c'est en 2009 qu'a eu lieu le démarrage du programme Erasmus Jeunes Entrepreneurs en tant que tel. Oui. L'idée étant de faire bénéficier de ces projets Erasmus de mobilité européenne à un public nouveau, qu'il s'agisse en l'occurrence des créateurs d'entreprises, dans une perspective probablement double, à la fois de favoriser la coopération intra-européenne des chefs d'entreprise, mais aussi de favoriser la création d'entreprises dans des pays émergents, nouvellement accueillis en Europe, à travers le soutien de mentors, enfin de chefs d'entreprise expérimentés dans d'autres projets, dans d'autres pays européens.
Est-ce que tous les pays européens participent à ce projet?
Mais oui, et bien au-delà, puisque aujourd'hui, le programme Erasmus Jeunes Entrepreneurs concerne 38 pays dans l'Europe élargie, hein, puisqu'elle est très largement élargie, puisqu'on y trouve le Kosovo, les pays baltes, l'Ukraine et la Turquie et beaucoup d'autres pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne aujourd'hui. Mais si on ajoute les pays qui font partie de la partie Erasmus globale, dont on parlera puisque notre ami Kevin en a bénéficié, le programme Erasmus Jeunes Entrepreneurs a été élargi à 6 pays au-delà de l'Europe, 2 États américains qui sont la Californie et l'État de New York, et Israël, Singapour, Taïwan, la Corée du Sud.
Et le Canada,
voilà.
Donc ce qui fait qu'en tout, en plus d'avoir les 27 pays membres de l'Union européenne, on a 11 pays qu'on va dire de l'entourage proche. Donc, comme a dit Nicolas, l'Albanie, l'Arménie, la Bosnie-Herzégovine, l'Islande, ce genre de pays-là. Et donc, c'est 6 pays plus internationaux, on va dire.
D'accord.
Ce qui,
allez-y.
Du coup, va monter qui fait monter du coup l'ensemble des destinations à 44 pays.
Oui, donc 44 pays, effectivement, un large choix. Nicolas Chaumel et Romain Giannini, vous êtes donc pour l'un chef de projet Erasmus pour jeunes entrepreneurs à Laval à Mayenne Technopole, on l'a dit tout à l'heure, et chargé de projet européen à Laval Mayenne Technopole. Donc ces postes-là, votre rôle sur notre territoire par rapport à ce programme, quel est-il ?
C'est en gros de manière transversale à tous les projets qui nous sont proposés, c'est d'en fait faire une veille des différents appels à projets qui sont soumis dans le cadre de programmes européens par l'Union européenne à intervalles réguliers, d'identifier sur le territoire les besoins, les acteurs qui pourraient y intervenir directement. Et à partir de là, c'est soit impulser le montage du projet spécifique, soit s'ajouter à un montage en cours qui est impulsé par un autre partenaire transnational européen. Et à partir de là, on soumet donc un dossier en suivant donc toute la mise en page, toutes les consignes de l'Union européenne. Et au terme de ce dépôt de dossier qui est marqué dans le temps, on obtient au bout de quelques temps suite à ce dépôt et à la clôture de l'appel à projet la réponse si oui ou non on sera subventionné et si oui ou non le projet est accepté. Et le cas échéant, lorsqu'il passe, eh bien, on va du coup démarrer le projet qui peut s'étendre en général entre 2 à 5 ans maximum. Il peut y avoir des exceptions, mais c'est en général les temporalités. Et à partir de là, eh bien, on a tout un suivi sur cette période avec les différentes actions qui auront été incorporées au plan d'action déposé lors de la candidature. Et donc dans le cadre de Erasmus pour un entrepreneur spécifiquement, là, c'est notre pour Laval Mayenne Technopole, c'est notre 5e cycle. C'est la 11e année consécutive, il me semble, Nicolas, si je dis pas de bêtises.
Première fois, oui.
Donc c'est la 11e année consécutive où on remporte entre guillemets notre projet Erasmus. Et donc dans ce cadre-là, on a 4 ans pour rassembler, pour impulser une quarantaine d'échanges.
D'accord.
Il faut peut-être préciser une chose, c'est que dans le cadre du projet Erasmus Jeunes Entrepreneurs, vous avez deux publics qu'on vise à faire se rencontrer, qui sont les créateurs d'entreprises, donc les dirigeants d'entreprises de moins de 3 ans ou les gens qui ont un projet de création d'entreprise, et d'autre part les entrepreneurs d'accueil, qu'on appelle les host entrepreneurs en anglais. Et quand Romain précise que dans les 4 ans qui viennent, nous on a un objectif d'une quarantaine d'échanges, c'est-à-dire qu'on s'engage dans les 4 ans qui viennent à faire partir une vingtaine de jeunes entrepreneurs à l'étranger, mais aussi à accueillir chez des entrepreneurs hôtes français une vingtaine de créateurs d'entreprises européens. C'est-à-dire qu'on est à la fois promoteur du programme et à l'export, si je puis dire, et à l'accueil pour ce qui est des... Ce sont deux démarches complémentaires, mais assez différentes, parce que, comme on pourra le voir peut-être tout à l'heure, les enjeux et les objectifs des uns et des autres ne sont pas exactement les mêmes.
Justement, sur notre territoire aujourd'hui en Mayenne, on peut compter par exemple combien d'entrepreneurs d'accueil aujourd'hui ?
Ça, c'est la question du cordonnier mal chaussé, puisque malheureusement, c'est pas comme nous avons un rayon d'action qui va très au-delà de notre département, mais c'est malheureusement pas dans notre département qu'on a le plus d'exemples à faire valoir. Mais effectivement, en termes d'entrepreneurs d'accueil, on en a quelques-uns, et on en a en particulier un qui a été récidiviste, puisqu'ils ont accueilli plusieurs jeunes entrepreneurs, c'est l'entreprise HRV, pour qui on pourrait l'évoquer, mais pour qui ça a été un vrai succès de long terme. Et puis l'année dernière, j'étais dans ce studio avec Yann Bieuzan, qui est le directeur de l'association POC-POC, qui anime à Laval le festival des Trois Éléphants et qui gère la salle de spectacle 6x4 et qui a accueilli en 2021, je crois, si mes souvenirs sont bons, une Italienne qui avait pour projet de créer un festival d'art de la rue dans son pays.
Car pour peut-être un peu plus préciser encore tout ce qu'a dit Nicolas, en termes d'échelle d'action, en France, on est 8 intermediary organizations, 8 organisations intermédiaires, ce qu'on appelle nous dans le jargon des IO. Et c'est un nombre relativement moindre par rapport à certains pays qui ont beaucoup plus promu le programme, notamment l'Italie et l'Espagne, où ils sont facilement au double en termes de représentation. Et avec ces 8 IO, ce faisant, on couvre relativement tout le territoire, mais en fonction de la répartition et des projets qui ont été acceptés, on n'a pas forcément tous la même ampleur directe. Un exemple plus concret, c'est que par exemple, nous, aujourd'hui, on serait les seuls, la seule organisation intermédiaire qui puisse agir sur Pays de la Loire, ça va de chance, mais en Bretagne, parce qu'ils se sont désistés, en Normandie et peut-être même en Centre-Val de Loire. Donc on a un territoire qui peut être assez grand en termes de débouchés directs. Après, ce qu'on a aussi intenté depuis peu, c'est une mise en réseau avec ces 7 autres organisations françaises afin de réaliser des dynamiques communes et ce faisant, se renseigner et communiquer ensemble pour promouvoir un peu plus le programme et interagir mieux.
D'accord. Maintenant, je me pose la question, quelles sont les conditions peut-être pour participer à ce programme ? Est-ce qu'il y a même des quotas de candidature ?
Alors, il y a deux éléments qu'il faut savoir à la base, c'est la distinction vraiment, c'est ce qu'a un peu commencé à raconter Nicolas, la distinction entre jeune entrepreneur et entrepreneur host. Donc dans le jargon, les jeunes entrepreneurs, pour accéder à ce statut, ce n'est pas vraiment en termes d'âge de l'individu, mais on parle bien d'âge de l'entreprise. En gros, un jeune entrepreneur, c'est un entrepreneur dont l'entreprise est encore à des balbutiements et peut-être encore en gestation, peut-être encore à l'état d'idée. Alors, en général, quand même relativement concrète, suffisamment concrète pour qu'on puisse obtenir un business plan et étayer le sérieux de la démarche de participation au programme. Et ça peut aller jusqu'à une entreprise qui est créée et qui est dirigée depuis moins de 3 ans. Et c'est là où il faut faire attention sur les départs, c'est que, mettons, l'entreprise dépasse le seuil de 3 ans d'existence en janvier et on a un déplacement qui est prévu en novembre et il excède les 2 mois, donc il dépasserait janvier, c'est pas possible, il va falloir rétrécir du coup la durée de départ. Mais c'est une des précisions sur laquelle on pourra revenir peut-être après en termes de conditions de départ. Au niveau ensuite du HE, c'est très simple, c'est l'opposé du jeune entrepreneur, le HE, le host entrepreneur, l'entrepreneur hôte. Lui, il lui faut avoir plus de 3 ans d'existence, ce qui est un peu une garantie d'expérience, on va dire. Et bien sûr, il faut qu'il soit avant tout aussi intéressé par l'échange et par la perspective de recevoir des homologues, de jeunes homologues européens. Au niveau des quotas, on n'a pas vrai. Si on veut, on a un système de quotas par organisation intermédiaire. C'est la fameuse quarantaine qu'on doit faire partir sur les 4 ans, sur le cycle de 4 ans. Mais c'est plus un quota en termes d'objectifs plutôt qu'un quota restrictif. C'est-à-dire qu'il y aura toujours moyen sur ces 4 ans, si on venait à faire plus, de pouvoir rééquilibrer au sein de notre partenariat européen. Mais en l'occurrence, là, on cherche précisément à faire bouger 17 jeunes entrepreneurs et à faire accueillir 19 autres jeunes entrepreneurs, mais du coup étrangers.
Est-ce que tous les secteurs professionnels sont concernés par ce programme ?
Oui, absolument. Tous les secteurs sont concernés, puisque nous, étant une technopole, principalement avant d'être animateur de Erasmus Jeunes Entrepreneurs, nous nous occupons de création d'entreprises innovantes et d'innovation dans les entreprises qui existent. On a tendance à essayer de privilégier les jeunes entrepreneurs qu'on accompagne dans leurs entreprises innovantes. Mais le programme, lui, Erasmus Jeunes Entrepreneurs, s'adresse vraiment à tous les secteurs. Je peux citer le cas d'une jeune arménienne qui avait le projet de créer un vignoble dans son pays, qui est le cœur historique de la vigne, et qui est venue passer un séjour de 4 mois dans le sud Maine-et-Loire chez un viticulteur pour apprendre à la fois la culture de la vigne et la vinification telle qu'on la pratique chez nous, hein, qui est considérée comme un haut lieu de la vinification. Et puis, je vous ai parlé de HRV et de son jeune entrepreneur James, qui sont dans les hautes technologies de la réalité virtuelle. Je vous ai évoqué aussi Yann Bieuzan, qui est dans le monde du spectacle et culturel et qui a accueilli une jeune... Voilà, il y a des gens dans la vidéo, il peut y avoir des agriculteurs, qui sont en projet d'installation, peuvent aller s'immerger dans une ferme d'un autre pays d'Europe pour s'imprégner de pratiques professionnelles différentes. Donc vraiment, tous les secteurs sont ouverts. Là, en ce moment, on étudie les candidatures de deux jeunes diplômés bretonnes. Une qui veut faire de la gestion, de la promotion et de la gestion de projets européens, et l'autre qui veut créer un atelier de couture. Donc, vous voyez, c'est très varié.
Dans le processus, justement, donc vous recevez des candidatures, des futurs jeunes entrepreneurs ou qui ont déjà créé tout récemment leur entreprise. Ils ont donc un projet personnel. Comment vous faites le lien, justement, avec l'entreprise d'accueil? Je pense qu'il faut qu'il y ait une cohérence, effectivement, évidemment, je veux dire, au niveau de l'entreprise d'accueil et le projet initial du jeune entrepreneur. Ça doit être des étapes qui mettent un certain temps, peut-être, pour trouver, selon le pays d'accueil, cet entrepreneur d'accueil.
Ben écoutez, je dirais qu'il y a plusieurs schémas. La première chose, c'est que nous accueillons et nous validons la candidature d'un jeune entrepreneur qui a précisé dans sa candidature quel est son projet d'entreprise, dans quel type d'entreprise il souhaiterait faire un séjour et dans quel pays en priorité. Sachant que là aussi, il y a des priorités linguistiques sur lesquelles on pourra revenir. Et une fois qu'on a validé cette candidature, on rentre dans la phase de recherche de l'entreprise d'accueil. Et là, il y a deux canaux. Il y a déjà la capacité à puiser dans la base de données du programme Erasmus Jeune Entrepreneur, qui a déjà des milliers de candidats host entrepreneurs. Mais comme il y a une telle variété de métiers et d'entreprises et de pays, le jeune entrepreneur ne va pas forcément trouver chaussure à son pied à partir des entreprises déjà référencées. Donc le jeune entrepreneur peut faire des recherches d'entreprises qui lui semblent intéressantes dans le pays qu'il vise, etc. Et dès lors qu'il a trouvé une entreprise à qui il a expliqué le contexte, le programme, etc., il suffit que cette entreprise-là s'inscrive comme host entrepreneur dans son pays en contactant une organisation intermédiaire locale. Et voilà. Donc il y a vraiment deux canaux, mais les deux fonctionnent. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui trouvent leur hôte par le canal interne, mais il y en a aussi d'autres qui vont le chercher par leurs propres moyens.
Oui, donc ils peuvent également chercher eux-mêmes. Ce n'est pas forcément des structures qui étaient déjà volontaires initialement. Ça peut être quelque chose qui se met en place.
Et comme nous sommes fonctionnant en consortium et en réseau d'organisations intermédiaires, quand on a un jeune entrepreneur qui se présente à nous et qui cherche, par exemple en Allemagne ou en Portugal ou en Italie, une entreprise en particulier, eh bien, nous, on va solliciter nos correspondants locaux à l'étranger qui peuvent, eux aussi, dans leur environnement, identifier des entreprises qui pourraient faire l'affaire. Donc, et d'une façon comme d'une autre, on enrichit la base de données des participants au programme Erasmus Jeunes Entrepreneurs, que ce soit des jeunes ou des hôtes.
Sophie, vous êtes... vous représentez aujourd'hui la Maison de l'Europe. Est-ce que vous avez parfois des jeunes qui viennent vous voir justement en recherche de ces informations-là, en recherche de ces documentations-là? Est-ce que vous êtes aussi... vous faites le lien par rapport à ce programme?
En fait, nous, c'est plutôt du volontariat. Mais après, on s'est rencontrés il y a quelques jours et peut-être que maintenant qu'on connaît mieux nous-mêmes le projet, on pourra le promouvoir plus facilement et rediriger éventuellement des jeunes qui ont déjà une idée d'entreprise. Parce que quand on fait des entretiens avec les jeunes, on leur parle pas de « est-ce que vous voulez monter une entreprise ?» Mais c'est vrai qu'en général, ils parlent de leur projet professionnel Et donc, du coup, peut-être que s'il y en a certains qui ont cette idée, on pourra en parler, oui, du projet, du programme. C'est pas très clair.
Non, c'est très bien. Et puis pouvoir rediriger donc vers les acteurs concernés. Je vous propose maintenant une première petite pause musicale avec Phoenix 1901. Nous sommes de retour sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier, 101.7 à Laval, et nous sommes donc de retour dans Instant Europe en compagnie de Nicolas Chomel, chef de projet Erasmus pour jeunes entrepreneurs à Laval Mayenne Technopole, Romain Giannini, chargé de projet européen à Laval Mayenne Technopole, Kevin Lognonnet, qui est avec nous au téléphone et qui a bénéficié du programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs, ainsi que Sophie de la Maison de l'Europe. Nous avons déjà évoqué, juste avant cette pause musicale, le programme, en quoi est-ce qu'il consiste, l'origine du projet, les pays qui participent à ce projet, et ainsi que les conditions pour participer à ce projet. J'ai une question maintenant qui me semble assez intéressante. La durée du séjour, elle est variable, je crois. Comment ça se passe concrètement ?
Oui, tout à fait. Alors, il y a deux catégories, on va dire, à différencier. D'abord, lorsque l'on vise un échange Erasmus qu'on va caractériser de conventionnel, c'est-à-dire avec les 27 pays membres de l'Union européenne et les pays alentours qui ont signé un partenariat pour être inclus. 38 pays en tout. Avec cela, c'est un échange qui est de 1 à 6 mois maximum. En général, nous, on préconise 4 mois pour la simple et bonne raison que moins de temps, c'est une immersion qui peut être un peu trop lapidaire et pas assez complète. Et à partir d'un peu plus de 4 mois, le problème se pose en particulier pour les entreprises qui démarrent. Et donc, lorsqu'on n'est pas dans un cas de figure où ça en est encore simplement à l'état d'idée, plus de 4 mois, quand on a déjà son entreprise et qu'elle démarre, ça devient compliqué d'être loin, en particulier pour des entreprises qui n'ont pas forcément l'habitude de télétravail ou qui n'ont pas d'outils numériques à la pointe, qui ne sont pas dans un système très numérique. Ça peut être compliqué de devoir tout faire à distance, de ne pas être en physique, de ne pas être présent sur le tissu économique local. Le deuxième axe, c'est le programme Erasmus pour un entrepreneur, mais dans sa variante globale. Donc 6 destinations supplémentaires, 7 en réalité, parce qu'aux États-Unis, comme le disait Nicolas, c'est 2 États, Californie et New York. Donc dans ce cadre-là, cadre dans lequel Kevin est parti à Taïwan notamment, on est limité de 1 à 3 mois. Tout simplement parce que ça rentre en compte avec les règles de visa en vigueur et que, étant donné le caractère spécifique du programme, excéder cette durée-là en one shot, j'ai envie de dire, risque d'amener plus de contraintes administratives qu'il n'en faut. Et donc c'est pour ça que cette version-là a été limitée à 3 mois.
Oui, je crois qu'il y a aussi une question budgétaire, parce que
dans le cadre du programme Erasmus global, les bourses sont plutôt plus élevées, parce que d'abord il y a une bourse de séjour qui est autour de 900 ou 1000 euros par mois suivant la destination, et il y a une bourse pour le voyage qui est un forfait de voyage. Donc c'est-à-dire que c'est un enjeu économique plus important que dans les pays de l'Europe continentale. Et puis l'autre chose, c'est que je crois qu'il y a aussi un rapport avec les natures de visa. C'est-à-dire que les jeunes entrepreneurs ne sont ni stagiaires ni employés. Donc, ils sont dans une zone qui est un peu celle d'un touriste, finalement, qui vient en observateur dans une entreprise. Et donc, je crois que ça aussi limite la durée des visas.
Oui. Tout à fait. Et pour rebondir dessus, pour vraiment caractériser ce statut dans les faits, on se rapproche vraiment plus d'un mentorat. On y reviendra peut-être plus tard, peut-être que Kevin pourra aussi l'évoquer, mais comme le dit Nicolas, on n'est pas salarié, on n'est pas stagiaire, on est là pour notre projet, pour donner un coup de main, pour apporter un œil neuf, mais aussi et surtout pour bénéficier d'une perspective, d'un point de vue, que j'ai envie de dire, local, qui peut dévier des pratiques professionnelles de notre pays d'origine. Et donc qui permettent d'apporter un atout de différenciation lorsqu'on va venir importer ces pratiques dans la future boîte nouvellement créée en France.
Avoir ces connaissances-là également, ça peut permettre probablement une entreprise, un jeune entrepreneur qui bénéficie de cette expérience, qui revient ensuite en France, peut-être d'exporter, je ne sais pas si par exemple il crée une entreprise dans le commerce, ça peut lui permettre aussi, en ayant connaissance des fonctionnements de ce qui se passe ailleurs, peut-être de mieux travailler justement à l'échelle européenne sur sa propre entreprise.
Oui, c'est évidemment un premier pied sur un marché extérieur et en plus un premier contact, un premier soutien par le biais de son mentor, du coup de son entrepreneur hôte. Et juste encore pour rebondir, sur la durée moyenne qu'on fixe à peu près à 4 mois, elle permet également de conserver plus de fonds pour d'éventuels autres départs qui pourraient être plus rapides, de plus courte durée. Et donc tout le monde a y gagné avec ce format-là.
Entre le moment où quelqu'un candidate pour ce programme et le moment du départ, je suppose que les durées sont aussi variables.
C'est en général quelque chose d'assez personnalisé. Il n'y a pas de durée fixe. En vérité, tout s'accélère à partir du moment où l'échange est déterminé, fixé, et où la date de départ et la date de retour sont arrêtées. auparavant, on a donc plusieurs étapes que Nicolas avait mentionnées. Donc vraiment, l'expression de l'intérêt et la candidature sur la plateforme qui passe donc par le CV et par le business plan, ce qui permet d'étayer le sérieux de la candidature. Ensuite, on va avoir cette phase de ce qu'on appelle de matching, de mise en relation. Donc soit directement depuis la plateforme, soit par le biais d'un démarchage direct du jeune entrepreneur, ou bien encore de notre côté avec nos partenaires européens. Et ensuite, lorsque le contact est fait, la mise en relation est arrêtée et que les deux parties s'entendent, on a donc un work plan qui va être un document qui va venir planifier le séjour et ce qui est prévu pour le jeune d'apprendre, de voir sur quoi se renseigner. Et au terme de cela, on va avoir un contrat de financement avec l'organisme intermédiaire, donc en l'occurrence nous, lorsque l'on fait partir des jeunes entrepreneurs. Et au terme de cela, il n'y a plus qu'à prendre l'avion ou le train et partir à l'aventure pour 1 à 6 mois.
Justement, on parlait de financement, là, on en a un peu parlé quand même tout à l'heure, mais comment est financé le séjour d'un jeune entrepreneur? Donc on a parlé de bourse, après effectivement il y a le transport, il y a la vie une fois sur place. Donc qu'est-ce qui est exactement pris en charge et qu'est-ce qui est à la charge de ce jeune entrepreneur qui part à l'étranger dans ce programme?
Comme Nicolas l'avait également évoqué en début, on a un format de bourse relativement similaire à ce qui se fait avec l'Erasmus plus conventionnel, celui donc de la mobilité académique. C'est-à-dire qu'on va avoir un montant indexé au coût de la vie du pays dans lequel on va se rendre. De fait, on va avoir des coûts sensiblement différents entre un départ, un séjour en Grèce et un séjour au Danemark. L'un sera plus dans l'ordre de 700 euros, là où le Danemark sera plutôt dans 1000 euros et au-delà. Pareil pour la bourse globale, on a la bourse fixe et la bourse déplacement. La bourse déplacement est plus ou moins comprise dans la bourse totale pour les pays de l'Union européenne et les pays avoisinants. Et donc dans ce cadre-là, on va avoir un montant qui va transiter par nous et que l'on va du coup, à intervalles réguliers et définis, transférer aux jeunes entrepreneurs. Ce qu'on a fait jusqu'à présent en général, c'est d'avoir une première partie, tu me corriges Nicolas si je m'égare, mais une première partie qui correspond à peu près à 50% dans le premier mois d'arrivée, à mi-parcours 30% et à la fin 20% du montant total. Donc voilà.
Oui, parce que la bourse est calculée sur la base d'un forfait journalier en fait, qui se traduit vite en forfait mensuel, donc qui est destiné à couvrir les frais de vie. Donc c'est ni un salaire ni une subvention au réel, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander aux jeunes entrepreneurs de nous envoyer ces tickets de supermarché comme justificatif, mais on leur suggère quand même, en cas de contrôle, parce que ça peut arriver, de garder vers eux des preuves de leur départ, de leur voyage, de leur séjour sur place, etc. Donc c'est un forfait mensuel qui est calculé qui est multiplié par la durée du séjour. Donc on a un budget global par personne, et effectivement, pour des raisons de facilité de trésorerie, nous, en tant que financeurs du jeune entrepreneur, on a adopté la règle qui est de donner la moitié tout de suite, parce qu'on sait que c'est à ce moment-là qu'il y a de plus grosses dépenses, prendre de départ, réserver un logement, etc. Et ensuite, on verse un ou deux paiements intermédiaires suivant la durée. Et ce qu'il faut préciser, c'est qu'on est tenu de réserver la dernière mensualité au retour du jeune. C'est-à-dire que la dernière étape, c'est ce qu'on appelle le feedback, c'est-à-dire que le jeune remplit un rapport de séjour qui ressemble plus ou moins à un QCM, donc c'est relativement simple à remplir. On ne lui demande pas un mémoire de fin d'études ou de retour. Et à ce moment-là, on lui déclenche la dernière mensualité, c'est un gage de bonne fin.
Est-ce que vous échangez avec l'entrepreneur d'accueil pendant le séjour du jeune entrepreneur qui suit le programme Erasmus, jeune entrepreneur ?
Eh bien, assez peu et à vrai dire pratiquement pas, puisque chacun, que ce soit l'entrepreneur hôte ou le jeune entrepreneur, est accompagné par une organisation intermédiaire. Donc il y a le HAO, le HIO qui s'occupe de l'entreprise d'accueil, et il y a le NIO qui est l'organisme qui accompagne le jeune entrepreneur. Et donc l'entreprise hôte est plutôt accompagnée par son organisation intermédiaire. Ce qui fait que quand nous, on accueille des jeunes entrepreneurs étrangers dans des entreprises françaises que l'on accompagne comme hôte, eh bien oui, alors hein, là, on est chargé de s'assurer du bon déroulement du séjour et en particulier prendre des nouvelles du jeune entrepreneur étranger pour savoir s'il est bien arrivé, s'il a trouvé un logement, si tout se passe bien, si, et même y compris si sa relation avec son hôte se passe bien, parce qu'il arrive qu'il y ait des malentendus, parce que par exemple, il y a encore des entrepreneurs hôtes qui, ayant eu l'habitude d'avoir des apprentis, d'avoir des stagiaires, n'ont pas bien compris la différence. Et donc, moi, je me souviens d'une jeune designer, jeune diplômée de l'école de design de Nantes, qui est passée 6 mois, il y a une dizaine d'années, c'était au début, chez un designer hollandais de renom, qui prenait des NE l'un derrière l'autre et qui les mettait à la planche à dessin toute la journée. Donc la jeune femme n'était pas très contente de ça. Donc voilà, et c'est l'entrepreneur, c'est l'organisation intermédiaire de l'entreprise hôte qui doit quand même veiller au bon déroulement du séjour.
Ce lien, donc oui, est important. Des fois, ça permet donc juste de s'assurer que chaque personne soit bien confortable dans sa place, mais également que chacun puisse bénéficier tel que c'était prévu de ce programme. Je voulais revenir avec peut-être Kevin, qui est donc toujours avec nous au téléphone. Oui. Sur votre expérience à vous, quelles étaient peut-être vos attentes avant de participer à ce programme?
Parmi mes attentes, j'avais peut-être 4 mots-clés en tête. Le premier, c'était d'être sur le terrain. Le deuxième mot-clé qui était aussi extrêmement fort, c'était le mot-clé innovation. Et puis, 2 autres mots-clés qui sont peut-être un peu liés les uns aux autres. Il y avait cette idée de travers, de détroit. Alors ça, c'est vraiment dans un sens géographique, parce que Taïwan, effectivement, est au cœur d'une relation inter-détroit très complexe avec la Chine continentale. Et puis, le mot international, qui est aussi très fort là-bas, puisque sur place, on est malheureusement confronté à une barrière de langue qui est assez forte. Et on travaille dans une culture, le rapport à l'étranger, si vous voulez, se fait avec une grille de lecture qui est assez anglophone, anglo-saxonne. Donc on navigue effectivement un peu entre les mondes. Et c'était ces 4 mots-clés qui résumaient, je dirais, un peu les attentes et les aspirations qui m'ont poussé à vouloir partir là-bas. Ce qui a été extrêmement original, c'est que finalement, ce concept un peu d'Erasmus, donc qui a basculé, qui était effectivement orienté à l'origine pour des étudiants qui allaient vers l'apprentissage et maintenant vers des jeunes entrepreneurs, ne renvoyait absolument pas au même imaginaire, surtout dans l'esprit en fait que se font les Chinois du rapprochement entre l'université, enfin le monde de l'enseignement supérieur et les entreprises. Et du coup, en fait, ce décalage culturel était assez exceptionnel parce qu'en fait, dès le départ, je me suis retrouvé finalement un peu accueilli comme si j'étais une sorte de jeune chercheur qui sortait de la Silicon Valley, alors avec finalement beaucoup de révérence, mais aussi énormément d'attentes. Et en fait, pour s'intégrer au mieux dans l'entreprise d'accueil, il a fallu, je dirais, construire une très grande autonomie, parce que ce qui était aussi beaucoup attendu, c'est d'être une force de proposition permanente. Donc ça, c'est extrêmement agréable, parce que il y a un vrai travail d'intelligence relationnelle à avoir avec les équipes. C'est pas toujours évident, d'abord avec la barrière de la langue, les codes du monde de travail, du monde du travail sur place, qui sont pas les mêmes. Et puis, le rapport aussi aux étrangers. Et donc, du coup, des codes du travail en entreprise qui sont assez différents, très, très éloignés de la façon dont on les vit en Europe. Et la manière dont on nous perçoit un peu, j'irais, dans le monde de l'Occident, finalement, est assez réduit sur un prisme que moi, j'appelle un peu le prisme californien, c'est-à-dire... il y a une relation et une influence américaine très très forte à Taïwan, et donc en fait la façon dont on perçoit effectivement l'envie de travailler avec les Occidentaux c'est très orienté sur l'idée en fait d'une très grande flexibilité du monde de travail, très anglo-saxon, avec un marché en tension, et puis beaucoup de court-termisme en fait dans les perspectives de carrière d'évolution des collaborateurs qui sont autour de l'entreprise. Donc c'était assez assez original parce que dans une période courte, j'ai vu énormément de gens bouger et surtout bon, c'est un peu une caractéristique des Taïwanais, c'est qu'on change on n'hésite pas à changer de job et de métier extrêmement rapidement. Et sur un séjour qui a duré en fait presque 90 jours, donc presque 3 mois, j'ai vu défiler un nombre impressionnant de gens. Et c'était assez particulier en fait de voir effectivement des jeunes dans une entreprise avec une très forte boulimie de projet, une envie d'avancer, de bouger, très carriériste, et puis qui n'hésitaient pas effectivement à changer de cap, à changer d'horizon. Donc ça, c'est assez original justement dans cette intégration locale à Taïwan.
Vous parliez tout à l'heure de la barrière de la langue, justement, donc je pense que ça, c'est intéressant de revenir là-dessus. Pour participer à ce programme, il faut effectivement, le candidat postule à différents pays, mais il faut évidemment qu'il maîtrise très bien déjà la langue avant de pouvoir effectuer le départ.
Oui, je dirais que il y a deux choses qu'il faut voir, c'est que la langue commune pour participer au programme, pour rédiger son CV, pour échanger avec les organisations intermédiaires, c'est l'anglais. Mais c'est comme l'a expérimenté Kevin, j'imagine, de façon un peu forte, c'est que quand on est sur place, les gens s'expriment dans leur langue natale, dans la langue du pays. Et on va pas parler anglais. On va pas parler anglais. Donc... ça veut dire que quand les jeunes entrepreneurs se candidatent au programme, on leur demande d'abord quel est leur niveau de langue et on leur demande de choisir les pays de destination. Ça veut dire qu'il faut a priori qu'ils aient une attirance et une expérience de la langue du pays où ils vont aller. Alors évidemment, pour Taïwan, je pense que c'était particulier, mais c'est quelque chose de très important. Il faut bien intégrer que tout le monde ne parle pas anglais sur la planète. Pas encore, en tout cas. Peut-être jamais, et que donc, une fois qu'on est dans l'entreprise locale, on parle la langue du pays. Et c'est quelque chose d'extrêmement important à intégrer. Et je pense que Kevin en a fait l'expérience.
Ce qui m'a semblé aussi intéressant, là, dans le témoignage de Kevin, il parlait de codes de travail différents, en fait. Est-ce que vous vous assurez, vous également, qu'en fait, le candidat ait pleinement conscience, en fait, des différences qu'il peut y avoir ? Parce qu'on disait tout à l'heure qu'effectivement, les différences dans le mode de travail d'un pays à l'autre, ça nourrit, mais ça peut également être pas forcément facile, dans un premier temps, en tout cas, ou selon le candidat, à gérer ou à intégrer une fois sur place.
Ben, ça fait partie des données de base. Quand quelqu'un va aller faire un séjour dans une entreprise dans un autre pays, forcément qu'il va avoir une culture de travail qui n'a rien à voir avec celle qu'il connaît. Enfin, qui n'a rien à voir, ça dépend. Si vous allez en Allemagne, si vous allez en Allemagne ou en Autriche, qui sont des pays qui ont une culture de droit du travail assez proche de la nôtre, ça va. Et si vous allez au Kosovo, ou si vous allez à Taïwan ou à Singapour... effectivement, on est dans un autre monde. Mais ça fait partie des données de départ. Hein. Voilà, ça fait partie de la découverte.
C'est ça. Kevin, vous êtes parti, vous venez de nous le dire, à Taïwan. Quel était votre projet initial ? Dans quel domaine vous souhaitiez monter votre entreprise ?
C'était un projet initial qui était orienté dans le domaine du conseil. Et l'originalité... de choisir Taïwan, ce qui m'intéressait beaucoup par rapport à cette île, c'est d'essayer d'étudier comment finalement Taïwan pourrait jouer un rôle de tremplin en prévision d'une exposition universelle qui va se dérouler au Japon en 2025, qui sera la prochaine exposition universelle d'Osaka. Et effectivement, vivre à Taïwan sur cette période aussi courte, qui a duré moins de 3 mois, a été assez exceptionnel pour vivre en fait à la fois à la confluence d'une culture chinoise, on parle encore ici, là-bas, le mandarin traditionnel, qui est même différent hein, du, du pidgin, enfin du mandarin simplifié qui est utilisé en Chine continentale. Et puis, il y a une culture japonaise qui a perduré, qui est vraiment restée, ce qui fait que très vite, en échangeant justement sur les empreintes du Japon à Taïwan, dans l'entreprise d'accueil et puis dans la plupart des échanges que j'ai eus avec des locaux, on m'a tout de suite dit « Ah, mais moi, mes grands-parents, ils parlaient japonais. » Et effectivement, dans la famille, il y a eu un environnement linguistique. Et il y a encore aujourd'hui, en fait, une sorte de passion pour le Japon, un regard extrêmement pointu sur la manière dont les Japonais aussi innovent, ont envie d'absorber des technologies, voilà, de développer aussi des choses à l'international. Et donc, c'était extrêmement intéressant de, dans une unité de lieu et avec une densité assez exceptionnelle comme une île, comme un écosystème qu'offre Taïwan, de vivre un peu, si vous voulez, ce mélange, quoi, ce mélange des cultures. Qui est très très intéressant pour un jeune entrepreneur parce que moi je me suis très vite retrouvé dans ces quatre mots-clés que je vous ai présentés tout à l'heure et surtout dans cet aspect en fait tourné sur l'innovation.
Justement, après cette expérience et donc à partir du projet que vous aviez, quelles ont été la suite à ce programme Erasmus donc à Taïwan?
Alors en fait, la durée de cet échange donc n'a pas dépassé 90 jours et c'est peut-être une petite frustration dans la durée parce que il y avait cette envie en fait d'aller peut-être un peu plus loin. Il y a eu des contacts qui ont été extrêmement intéressants à mener un peu tous azimuts, y compris avec des universités, des laboratoires de recherche. Et donc en fait. Moi, je pense que l'expérience est effectivement utile pour faire mûrir et faire aboutir au mieux, finalement, un projet d'entreprise avec toutes ces complexités, surtout si on a envie de le lancer à l'international. Mais il y a une dimension que moi, je trouve aussi extrêmement forte dans ce programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs. Au-delà aussi des compétences entrepreneuriales, il y a très largement aussi ce défi qu'on vit au quotidien qui est d'acquérir des compétences interculturelles. Et moi, ça a été sans doute la grande plus-value finalement de ce projet, d'apprendre à cultiver voilà une intelligence relationnelle avec des partenaires, de bien identifier là où il y a des besoins. Et c'est l'envie aussi peut-être de revenir en fait à Taïwan et de pouvoir aussi y établir un pont justement en prévision donc de cette exposition universelle qui se déroulera dans la baie d'Osaka en 2025, avec toujours cette idée qu'il y a vraiment deux îles très liées, très complémentaires dans de nombreux projets, et puis voilà, y voir un tremplin entre les cultures, qui après est aussi très très utile en fait pour comprendre comment on peut construire aussi des courants d'affaires pour la suite.
Nicolas ou Romain, même peut-être, est-ce qu'il y a un suivi après donc le programme du jeune donc qui a fait son voyage à l'étranger? Donc vous nous avez expliqué tout à l'heure donc il y a une sorte de compte rendu à effectuer suite au voyage Erasmus, mais est-ce qu'il y a un suivi peut-être après sur la construction de son projet?
Le suivi peut se faire d'autant plus facilement que ce sont des jeunes entrepreneurs qu'on accompagnait avant et qui sont locaux. Nous, à la Technopole de Laval, on a un incubateur. Donc, on accompagne les entreprises au-delà de leur phase d'incubation. On était ce matin à l'anniversaire des 5 ans de l'atelier du ferment qui a vu le jour presque à la Technopole de Laval. Pour ce qui est d'Erasmus, de jeunes entrepreneurs, comme on a un champ d'intervention qui est très largement au-delà du département et qu'on est un peu, comme je disais, les cordonniers mal chaussés, eh bien, dès lors que l'entrepreneur est rentré chez lui, hein, comme Kevin, il est rentré en août, alors il attend de transformer l'essai. Mais pour nous, on n'a plus légitimité à accompagner les gens très au-delà de l'intérêt personnel qu'on a eu dans la relation et de la proximité géographique. Je pense qu'on va continuer de s'intéresser à l'entreprise de Kevin, le Lyonnais, parce qu'il est en Bretagne, pas très loin de chez nous. Mais j'ai accompagné des jeunes dans le Périgord ou dans à Paris ou assez loin, dont je n'aurai malheureusement pas de nouvelles.
Après, pour rebondir sur ce que disait Nicolas, et ce sera aussi peut-être quelque chose qu'on peut développer plus tard, mais on sort également ce matin d'une réunion assez stimulante avec le comité Pépite à une échelle qu'on peut considérer comme nationale. Et l'idée, c'est de développer des synergies avec eux pour mailler le territoire et également compléter cet élan qu'on a déjà initié avec nos autres homologues français, organisations intermédiaires, pour couvrir mieux le territoire et faire ressortir ce qu'on appelle des success stories. Donc c'est vraiment des échanges qui se sont très bien passés, qui sont exemplaires et qui peuvent servir d'illustration, d'inspiration, et pour lequel je pense Kevin est déjà un très bon ambassadeur et une très bonne illustration.
Voilà. Alors en deux mots, puisque Romain, tu viens d'évoquer Pépite. Pépite, c'est l'organisme qui accompagne le statut des étudiants entrepreneurs. Donc c'est des étudiants, alors plutôt dans l'enseignement supérieur, qui se destinent à la création d'entreprises et qui donc ont un statut d'étudiant entrepreneur, qui se traduit en particulier par le fait qu'ils peuvent utiliser leur projet d'entreprise comme stage de fin d'études. Voilà. Et donc effectivement, ces jeunes étudiants entrepreneurs en fin d'études sont tout à fait bienvenus pour participer au programme Erasmus Jeunes Entrepreneurs, et les animateurs pépites dans les régions qui vont les accompagner pourront tout à fait être bien placés pour savoir ce qu'ils deviennent après leur retour du séjour Erasmus.
Oui, parce qu'en tant qu'étudiant, on peut d'ores et déjà, en fait, pendant le processus d'études, même monter son entreprise en parallèle, c'est ce que vous disiez, puisque finalement, ouais, ça peut servir de stage aussi.
Alors, plutôt en fin d'études. Le stage, c'est le stage de fin d'études qui peut être fait avec sa propre entreprise. Puisqu'en général, le stage de fin d'études est fait dans une entreprise tierce. Mais là, le statut d'étudiant entrepreneur permet de faire son stage de fin d'études avec son projet d'entreprise. Le projet d'entreprise devient un objet de stage et aussi un lieu de stage.
Je voudrais revenir sur les entrepreneurs d'accueil. Donc, on en a parlé un peu tout à l'heure. Quel avantage c'est pour eux également donc, de recevoir un jeune entrepreneur dans le programme Erasmus?
L'avantage pour eux, il est multiple. D'abord, il y a un avantage très pratique et immédiat, c'est que l'entreprise d'accueil va accueillir par ce dispositif quelqu'un qui est en général très motivé, qui est souvent multilingue et qui vient d'un autre pays et donc qui est compétent parce qu'il vient avec un projet d'entreprise, donc il vient avec un savoir opérationnel qui va bénéficier tout de suite à l'entreprise dans laquelle il va atterrir. Et puis il y a un avantage aussi à moyen terme, puisque pour l'entreprise d'accueil, en particulier pour les petites entreprises qui n'ont pas d'activité à l'export ou très occasionnelle, c'est l'occasion de mettre un pied dans le pays d'origine du jeune entrepreneur. Puisque le jeune entrepreneur est destiné à créer son entreprise dans son pays, eh bien pour l'entreprise d'accueil, c'est une façon de mettre un pied dans ce pays-là. Et pourquoi pas de trouver à travers le jeune entrepreneur qui aura créé son entreprise un relais commercial ou autre localement. Je prends un exemple assez simple. Il y a un cidriculteur du Finistère qui a accueilli plusieurs jeunes entrepreneurs successivement, dont le premier est un jeune tchèque qui avait pour projet de créer un verger et faire du cidre à la mode bretonne, peut-être, en République tchèque. Eh bien, des années après, ils ont gardé contact, et le jeune tchèque a donc effectivement commencé de créer son verger. Mais on peut imaginer, je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais qu'ils peuvent commencer son activité par importer le produit de son entrepreneur hôte. Pareil avec le viticulteur dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a reçu cette jeune viticultrice vigneronne potentielle, en tout cas en Arménie, qui peut commencer son activité pour alimenter son chiffre d'affaires par l'importation des produits de son hôte.
Donc le programme permet de créer du lien, du réseau, ce qui est très important dans l'entrepreneuriat. une entreprise qui voudrait...
L'institut de suivi aussi, peut-être à mentionner, le réseau Alumni, qui est peut-être pas suffisamment mis en valeur, mais fédérer aussi un réseau d'anciens participants, c'est peut-être aussi un capital de connaissances qui est très intéressant pour à la fois entretenir la flamme des expériences passées, le vécu personnel des uns et des autres, et puis préparer au mieux finalement ceux qui se préparent à partir, à se lancer dans l'aventure. C'est cette partie aussi réseautage avec les anciens peut être, je pense, extrêmement intéressant. Et puis ça construit un peu une famille Erasmus autour des mobilités au sens large.
Absolument.
Si un jeune aujourd'hui nous écoute et qui serait intéressé par ce programme, auprès de qui doit-il effectuer les démarches ?
Eh bien, deux canaux, j'ai envie de dire, dont l'un que Kevin vient de mentionner. Le premier, évidemment, pour toute la partie gestion, suivi, etc., eh bien, c'est une organisation intermédiaire. Alors, en l'occurrence, sur le territoire des Pays de la Loire, eh bien, c'est Laval Marine Technopole. Que nous représentons. Vraisemblablement, nous vous invitons, si vous avez un projet de mobilité ou un projet d'entreprise et que vous voulez récupérer, collecter, engranger des compétences issues de l'immersion en territoire professionnel, eh bien, on vous invite vraiment à vous manifester, parce que c'est l'occasion, comme on l'a dit, de pouvoir... rapporter des compétences différenciées de par la culture d'accueil et de par les idées qui peuvent en émerger. Et ensuite, il y a comme second canot, à côté donc de Laval Marine Technopole, ce groupe d'alumni dans lequel Kevin est évidemment un représentant et qui va être une démarche de plus en plus structurée à l'avenir parce que, comme je l'ai dit, avec les synergies qui sont en cours, qui sont en tout cas initiés avec le réseau Pépite et avec le réseau des organisations intermédiaires françaises. L'idée, c'est vraiment d'avoir un troisième ensemble, un troisième canal qui permettra d'avoir de l'information vécue, de l'expérience concrète pour orienter au mieux les jeunes entrepreneurs. Parce qu'avec Erasmus Jeunes Entrepreneurs, l'idée, c'est vraiment de consolider son projet professionnel. C'est vraiment d'expérimenter, de s'immerger, peut-être parfois de réorienter. On a eu des cas de réorientation. Parfois, c'est léger. Parfois, ça peut être très sensiblement différent. Mais l'idée avec ce programme, c'est vraiment de définir, de vraiment consolider sa carrière professionnelle et la boîte qu'on souhaite créer.
On va arriver très bientôt à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y aurait quelque chose peut-être qui serait encore important à souligner avant de conclure ?
Plus les destinations sont lointaines, plus je pense c'est extrêmement important de se nourrir finalement des retours d'expérience qui ont été vécues par le passé. Qui sont extrêmement utiles justement pour penser la dynamique de mobilité propre dans le cadre du programme, et puis d'anticiper en fait toutes les toutes petites tracasseries, mais qui sont utiles, la recherche d'un logement, organiser, trouver une carte SIM locale et ainsi de suite. Donc tous ces petits détails, en fait, c'est assez intéressant, ne serait-ce que les partager avec des anciens, parce que ça fera vraiment gagner des minutes et puis profiter au mieux de l'expérience sur place.
Merci Kevin.
Dernier petit point qu'on a peut-être un peu survolé, c'est on a abordé que le jeune entrepreneur n'est pas un salarié, n'est pas un stagiaire, mais donc du coup il est bénéficiaire d'un mentorat transnational. Mais le point aussi à accentuer, c'est que formellement, le jeune entrepreneur, lorsqu'il est en apprentissage, en découverte, en immersion dans l'entreprise, il a 20% de son temps, donc l'équivalent d'une journée, qui doit être dédié spécifiquement à son propre projet d'entreprise. Donc, qui implique qu'il travaille vraiment sur sa boîte. Et ce qui implique donc que voilà, ce temps dédié se fait un peu en distanciation du travail directement dans l'entreprise hôte.
Dernière chose, moi je soulignerais le fait que Erasmus Jeune Entrepreneur s'adresse à tous les métiers, donc que les gens qui nous écoutent, les jeunes en particulier, se destinent à être menuisier, électricien, pâtissier, informaticien ou expert en droit international. Le programme Erasmus Jeune Entrepreneur leur est destiné. Et donc, je pense qu'on est effectivement dans une perspective de consolidation d'entreprises à créer dans un contexte international et européen en particulier. Donc, c'est que du bonheur.
Et le mot de la fin, il n'y a pas d'âge pour être jeune entrepreneur. C'est avant tout l'entreprise qui doit être récente et jeune.
C'est important de le préciser, en effet. Merci Nicolas Chomel, donc chef de projet Erasmus pour jeunes entrepreneurs à Laval Mayenne Technopole. À vous aussi Romain Giannini, chargé de projet européen à Laval Mayenne Technopole. D'ailleurs Romain, vous allez, je crois, peut-être prendre la suite en fait de Nicolas Chomel par la suite lors
oui,
de son départ.
Tout à fait. Donc Nicolas, à la fin de l'année, va faire valoir ses droits à la retraite. Et c'est donc moi qui, depuis le début de l'année et même la fin de l'année dernière, a commencé à être formé par Nicolas pour, je l'espère, reprendre avec autant de brio que ce qu'il a pu faire auparavant, le programme Erasmus Jeune Entrepreneur et sa gestion sur le territoire.
Merci également à Sophie de la Maison de l'Europe.
Je peux ajouter
bien
quelque
sûr,
chose.
Sophie.
Je voulais juste dire que s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées par la mobilité, la Maison de l'Europe a pour projet de créer un livret des mobilités dans lequel on retrouvera notamment le témoignage de Kevin et qui permet aux jeunes Mayennais de se rendre compte qu'il y a beaucoup de façons de partir avec le programme Erasmus+. Et dans ce livret, on interroge aussi le sentiment d'appartenance à l'Union européenne avant et après la mobilité. Et du coup, c'est intéressant aussi dans le cadre de la mobilité de Kevin, puisque lui, il est parti à Taïwan et pas du tout dans un pays de l'Union européenne.
Merci Sophie. Merci également donc à Kevin Lognonnet. Vous avez bénéficié du programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs et vous avez pu nous partager aujourd'hui votre expérience. Merci d'avoir été avec nous.
Je vous en prie.
On va clôturer donc cette émission Instant Europe que vous pouvez retrouver tous les deux mois. Et je le rappelle, exceptionnellement, le mois prochain, vous nous retrouverez également. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci.
Instant Europe.
L'émission proposée par la Maison de l'Europe en Mayenne.